peut-être commencer ? Alors avant d'entamer cette matinée, je voudrais remercier les organisateurs pour ce colloque, pour ce beau colloque. Et je voudrais aussi dire quelques mots. Assurément, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais je n'ai pas tout à fait la même histoire que les présidents de séances, des séances précédentes. Et donc, en fait, j'ai été formée à l'école de Lille, chez les philologues. Cette école a été fondée par Jean Bollack. Et quand je suis arrivée comme étudiante, je n'ai connu de la discussion entre Bollack et Vernant que le côté très conflictuel. Alors, avec le temps, on se dit que ce qui était bien, c'est qu'à cette époque-là, on pouvait s'engager dans des bagarres pour des idées, pour des positions scientifiques fortes, que quand on était étudiant, on s'excitait sur ce type de conflit, on était content de choisir son camp, mais à un moment aussi, on prend le temps de lire, de comprendre la portée des choses dont on parle autour de nous. Et Vernant est devenu, comme il l'avait d'ailleurs toujours été pour tout le monde dans cette équipe de recherche, un interlocuteur, alors qui pour moi a été malheureusement le plus souvent un interlocuteur livresque. Je travaillais sur les textes, sur la tragédie, la poésie archaïque surtout. Et j'ai discuté avec lui en le lisant. Je ne l'ai rencontré qu'une fois et j'ai eu affaire à une personne bienveillante et attentive, ce qui m'a fait regretter de ne pas avoir pu discuter beaucoup plus avec lui. Et je voulais donc dire que c'était pour cette raison que j'étais particulièrement touchée d'être accueillie ici. Voilà, donc une fois ces choses dites, je passe la parole à Barbara Cassin, qui est philosophe, spécialiste de philosophie de l'Antiquité, chercheur au CNRS, directrice du centre Léon Robin. Je vais arrêter là pour les titres et je la laisse parler tout de suite.
Bon, merci. Moi aussi, je suis très heureuse d'être ici. Ça marche ? Non ? Voilà ? Non ? Je disais simplement que j'étais aussi très heureuse d'être ici. Donc je vais essayer de parler de Vernant, Homère et les philosophes. Il était une fois. Il était une fois, ce sont les mots par lesquels commencent les œuvres de Vernant qu'il a recueillies pour Maurice Olinder. Et c'est le titre qu'au départ, dit-il, il avait pensé donner au livre « L'univers, les dieux, les hommes, récit grec des origines », qui est donc l'un de ses derniers livres. L'un de ses derniers livres, juste avant « Entre mythes et politique », et ce dernier livre, cet avant-dernier livre, qui aurait dû commencer par « Il était une fois », est celui qui inaugure ses œuvres complètes, enfin ses œuvres, pas complètes, et alors que « Entre mythes et politique », qui a été écrit juste en 2000, alors que L'univers, les dieux, les hommes est un livre de 99. Donc, Entre mythes et politique, qui a été écrit en 2000 et 2004, clôt les œuvres. Donc, c'est entre ce début et cette clôture, qui sont presque à la même époque et qui, étrangement, sont écartées par toutes, comprennent dans leur cycle toutes les œuvres qu'il nous a transmises, qu'il a voulu rassembler. Donc c'est entre cet avant-dernier livre et ce dernier livre qui ouvre et clôt les œuvres que je voudrais insérer quelques remarques. C'est donc des remarques entre. À vrai dire, entre, c'est justement cela qu'il y a pour moi de plus fascinant et de plus charmant au sens strict chez Vernant. Lorsqu'il parle de lui-même, il dit que Et ça, c'est justement dans La traversée des frontières de 2004, donc dans son dernier livre, tout à fait à la fin de ses œuvres. Il dit que sa situation a presque toujours été d'entre deux, occupé à frayer une voie de passage entre des domaines opposés, passé et présent, mythe et raison, monde archaïque et cité, soi-même et l'autre. Entre, très précisément, entre le monde des héros d'Homère et l'expérience de vie. C'est ainsi qu'il caractérise son entre. Et peut-être que passé et présent est une manière de condenser l'ensemble de ces entre, parce qu'avec le présent, il s'agit toujours en même temps de politique et d'engagement. Je continue à citer La traversée des frontières. Pourquoi avons-nous besoin de la Grèce ? Pas de la Grèce seule, mais peut-être tout spécialement d'elle, pour penser notre présent. Qu'est-ce qu'elle apporte pour penser l'avenir ? Et une première nécessité pour pouvoir répondre, c'est de savoir ce que les Grecs nous font à nous. Et pour cela, dit-il, il faut d'abord se faire grec au-dedans de soi. Je continue à le citer. « J'ai essayé, pour mieux comprendre, de me faire grec au-dedans de moi, dans mes façons de penser et mes formes de sensibilité. » Et trois leçons essentielles dans la modification des façons de penser et des formes de sensibilité, trois composantes de cette compréhension. Les voici. 1. Une totale liberté d'esprit. 2. Le caractère humain de l'homme est lié à son statut de citoyen, communauté des égaux. 3. Enfin, que ce monde est beau, dont nous faisons partie. Et cette appréhension des trois composantes passe, du début à la fin de son œuvre, par le récit, mutos, par la mise en perspective du récit, qui est la grande constante thématique de conceptualisation, mythe et pensée en 65, mythe et société en 74, mythe et religion en 90, mythe et tragédie en 72 et 86, mythe et politique en 96 et 2006. Donc, elle passe par la mise en perspective du récit, et elle passe aussi, et c'est comme ça que je commençais, et c'est comme ça qu'il a commencé, il était une fois, par le récit du récit, qui à juste titre est le début et la fin des choses. Il faut raconter, il raconte à son petit-fils, comme à son petit-fils, à la façon d'un conte de fées, sur le mode de ce que Platon appelait les fables de nourrice, il raconte l'Iliade, l'Odyssée, la Théogonie. Et c'est bien du mythe et pas du poème, dit-il, parce que le poème doit demeurer identique à travers toutes les performances qui, dans l'espace et dans le temps, l'actualisent, mais pas le mythe, qui, lui, n'est pas fixé dans une forme définitive. Et donc, conclut Vernant, j'ai essayé de raconter, comme si la tradition de ces mythes pouvait se perpétuer encore, en faisant advenir dans le présent le plaisir du récit, ce plaisir extrême dont La Fontaine se félicitait si Podane lui était compté. Pourquoi raconter l'univers, les dieux, les hommes à ses petits-enfants? Je viens d'avoir un petit enfant, c'est pour ça que la question est pour moi complètement d'actualité. Pour perpétuer quoi exactement? Être grec au-dedans de soi, façon de penser, forme de sensibilité, mais pourquoi dans notre présent? Eh bien, la réponse que j'aimerais donner aujourd'hui, c'est pour penser, pour sentir quelque chose de l'ordre du paganisme. Quand je lis Homère, quand je lis Vernant racontant les récits d'Homère, c'est si loin, si proche, et j'ai énormément de plaisir, et pourquoi? De quoi la perpétuation et le décalage sont-ils une délivrance? Sont-ils un contrepoison? En quoi est-ce politique? Réponse provisoire, c'est politique, non pas parce qu'il est question de la police grecque et de la démocratie des égaux, c'est politique parce qu'aujourd'hui nous étouffons des monothéismes affrontés. Le paganisme, Homère, à ses petits-enfants, pour libérer le paysage, pour élargir et pour creuser l'horizon, pour respirer de l'Homère, en verser par les oreilles comme on ouvre les fenêtres. Il est politique de raconter Homère. Cela fera du bien, et cela fera beaucoup de bien aux philosophes.
qui accepte un peu facilement la phrase de Heidegger « Nous venons trop tard pour les dieux et trop tôt pour l'être » l'expérience de la pensée en 47. Et pour ma part, j'ai toujours opposé à cette phrase une phrase de Char que je cite « Nous ne jalousons pas les dieux, nous ne les servons pas, ne les craignons pas, mais au péril de notre vie, nous attestons leur existence multiple et nous nous émouvons d'être de leur élevage aventureux lorsque cesse leur souvenir. » Cette phrase, pour moi, s'applique parfaitement à Vernant. Donc, deux modalités de vie, deux façons de penser, deux formes de sensibilité, et le motif politique essentiel pour raconter Homère, je le dirais ainsi, il s'agit de choisir le multiple. Nous attestons leur existence multiple. Il s'agit de choisir le multiple et de nous faire sentir quelque chose comme un paganisme sécularisé lié à la force du récit et à la beauté du monde. Les dieux et pas l'être, les dieux sans majuscule et au pluriel, et pas l'être, l'un, Dieu avec la majuscule du monothéisme. À l'horizon de ce motif, quelque chose dont je ne traiterai pas, un problème considérable dont je ne traiterai pas, mais qui constitue l'horizon, de peut-être l'horizon même de l'anthropologie historique, de Vernant à Rancière en passant par Arendt, c'est le rapport entre esthétique et politique. Et je rappelle simplement, pour faire pierre sur ce chemin, ce que dit Arendt, serait-ce que le goût compte parmi les facultés politiques ? Réponse oui. Donc, maintenant je reprends à partir de mon titre, Homère, Vernant et les philosophes. Et les philosophes s'entend de deux manières. On peut comprendre Homère, Vernant d'une part et les philosophes de l'autre, en oppositif, et c'est la manière la plus facile de comprendre. Et puis on peut entendre Homère, Vernant et les philosophes, ou plutôt et des philosophes, dans une espèce de conjonction roborative, et c'est aussi comme ça que je voudrais tenter de le comprendre. Alors, première manière, la plus évidente, donc, Homère, Vernant d'un côté et les philosophes de l'autre, de Platon et Aristote jusqu'à Heidegger. Nous sommes en plein dans la grande opposition retravaillée du mutos et du logos, toujours retravaillée par Vernant, par exemple dans Les frontières du mythe en 1996, c'est peut-être l'un des textes les plus clairs. Bien sûr, mutos à l'origine ne s'oppose pas à logos, mais reste qu'au cours du 5e siècle, mutos, je cite, est le nom qui recouvre la catégorie hétérogène de tout ce dont on veut se démarquer. C'est une constante d'altérité logique. Et Vernant ne varie pas dans ce diagnostic depuis Mythe et société en Grèce ancienne jusqu'à Frontières du mythe. Deux citations, simplement pour le pointer. Dans Mythe et société, qui est un texte de 1974, le mythe met en jeu une forme de logique que l'on peut appeler, en contraste avec la logique de non-contradiction des philosophes, une logique de l'ambigu, de l'équivoque, de la polarité. Et en 1996, dans Frontières du mythe, lorsqu'il parle de la croyance, au mythe, son statut est équivoque, flottant, mal assuré. Ce que raconte la mythologie n'apparaît pas comme faux, sans être reconnu pleinement comme vrai, on y croit sans y croire. Quand les philosophes se mettent à traiter le mutos comme du logos, ils ridiculisent le mutos, mais à vrai dire, ils se ridiculisent surtout eux-mêmes et leur logos. Et cela, Vernant le pointe parfaitement dans Mythe et société, lorsqu'il commente la métaphysique bêta d'Aristote, c'est au passage 1011 à 20, Aristote explore les apories concernant les principes. Est-ce qu'il se demande si les principes des êtres corruptibles, c'est-à-dire des hommes, sont les mêmes que ceux des êtres incorruptibles, c'est-à-dire des dieux? Et il nous dit, Hésiode et les théologiens ont négligé de penser à nous. Ils disent que les êtres qui n'ont pas touché le nectar et l'ambroisie sont mortels. Vernant commente, Aristote lit le mythe comme s'il s'agissait d'un texte philosophique et il le réorganise en dilemme. En effet, Aristote propose de deux choses l'une. Ou bien les dieux absorbent des nourritures pour le plaisir et alors elles ne constituent pas la cause de leur essence immortelle, ou bien ces nourritures sont vraiment cause de leur être et alors comment les dieux seraient-ils éternels s'ils ont besoin de nourriture? Aristote conclut, cela ne vaut pas la peine d'examiner avec zèle ceux qui argumentent de manière mythique, muticos sophizomenon, il faut se tourner vers ceux qui parlent par démonstration, apodeixios, legontoun. Et Vernon conclut, pour l'historien des religions, c'est par rapport au mythe le caractère déplacé, pour ne pas dire aberrant, des remarques d'Aristote qui fait leur intérêt. Entre mutos et logos, l'écart est maintenant tel que la communication ne passe plus, le dialogue est impossible, la coupure consommée. Vernon précise, Aristote emboîte là le pas à Platon. Et j'aimerais faire quelques remarques supplémentaires. Il me semble que Platon a toujours été déjà beaucoup plus loin. Là où Aristote pense une altérité, marque une altérité entre mutos et logos, Platon expulse. Pour Platon, Homère représente un danger politique, pas pour Aristote. Et on ne s'arrête pas assez à ça. Évidemment, Homère ne peut être qu'un objet d'énamoration, pour reprendre le terme de Lacan, enamoration. C'est le nom propre de la culture grecque, comment voulez-vous que les philosophes s'en sortent? On y apprend le grec, on y apprend à lire, on y apprend la langue en même temps que les dieux. Et, par exemple, cette phrase de Dion est très, très significative. Tout le monde ne voit pas le même ciel, mais même les Indiens connaissent Homère. Donc, pour les philosophes, ce ne peut être qu'un objet d'énamoration. Reste qu'Aristote l'intègre, alors que Platon l'expulse, et pour les mêmes raisons. Aristote intègre Homère via la poétique dont Homère est le père, et Aristote place la poétique dans la politique, théâtre, tragédie, purgation des passions. Juste deux phrases, en Poétique 8, Aristote nous dit « Homère, qui fait la différence, là encore, comme pour tout le reste, voit Kalos, que ce soit par Techné ou par Phusis. » Et dans la Poétique 24, « Par-dessus tout, Homère a appris aux autres à dire des mensonges comme il faut. Pseudé, legein, hos, dei. » Platon l'expulse de la République pour les mêmes raisons. Pour les raisons mêmes qui font que Aristote l'intègre. Voici ce que dit par exemple Platon au livre 2, au livre 3, en 371 en l'occurrence, livre 2. Il faut surveiller les mythopoioi, Homère et Hésiode, ils ne mentent pas Kalos, mais Kalos, pseudé taille. C'est pour ça qu'il faut les expulser. Pseudé, legai, nosdei, ils disent des mensonges comme il faut, dit Aristote. Mais Kalos, pseudé taille, ils mentent mal, c'est pas beau, dit Platon. Il faut rejeter de l'éducation les fables qui défigurent les dieux et les héros. De raconter qu'Héra a été chargé de chaînes par son fils, qu'Héphaïstos a été précipité par son père pour avoir voulu défendre sa mère contre les coups de son époux, que les dieux se sont livrés les combats imaginés par Homère, voilà ce que nous n'admettrons pas dans notre République, car nous ne sommes pas poètes, mais fondateurs d'État. Et cette immense méfiance contre Logos, Eidola Legomena, ce qu'on verse par les oreilles, contre le plaisir de parler et d'écouter, renvoie simultanément de la République, les poètes mythologues et les sophistes orateurs. Nous lui rendons hommage, dit Platon, nous rendons hommage à Homère et aux poètes et aux mythologues comme à des êtres sacrés, merveilleux, délectables, mais nous l'envoyons dans un autre état après avoir répandu des parfums sur sa tête et l'avoir couronné de bandelettes dehors. Donc, avec Platon, il faut choisir entre la culture grecque et l'universel philosophique. Platon contre Homère, voilà l'antagonisme complet, réel, et il est politique. Platon contre Homère, voilà l'antagonisme complet, réel, c'est une phrase de Nietzsche. Je passe à ma deuxième manière de comprendre Homère, Vernon et les philosophes. Je dirais Homère, Vernon et des philosophes. Des philosophes qui comprennent et qui chérissent Homère. Nietzsche. J'aurais pu prendre Nietzsche, Lyotard, Arendt, mais ce serait trop long, et je vais m'arrêter à Nietzsche. Nietzsche, dont j'ai été extrêmement surprise de voir qu'il n'y avait que deux occurrences de ce nom quand je regarde le lexique dans les œuvres publiées par Hollander. Deux mentions dans Mythes et Tragédies en Grèce ancienne pour refuser l'opposition Apollon-Dionysos dans la naissance de la tragédie et refuser que dans le sillage de Rhodes, le Dionysiaque soit perçu comme de l'étranger qui fait irruption et qui nécessiterait acculturation. Vernant a certainement spectaculairement raison. Nietzsche est un point de méfiance idéologiquement justifié. Et pourtant, c'est de Nietzsche que je voudrais repartir, et de cette absence de Nietzsche dans Vernant. Platon contre Homère, voilà l'antagonisme complet, réel, c'est une phrase de la généalogie de la morale, 1887. Je voudrais développer cette phrase par rapport à ce que peut apporter le paganisme aujourd'hui. Une laïcité païenne, ça serait quoi ? Pour Nietzsche, et je pense que ça peut aller pour Vernant, c'est apprendre à rire et apprendre à rêver, dire oui à la vie, refuser de finir, métaphysiquement consoler. Je voudrais proposer quelques phrases de Nietzsche pour explorer cela. Une phrase de Humain trop humain, je cite, donc c'est une phrase de, c'est l'aphorisme 262 qui s'intitule Homère, 1878. Le plus grand fait de la civilisation grecque reste toujours le rayonnement si précoce d'Homère sur le monde hellénique. Toute la liberté intellectuelle et humaine où parvinrent les Grecs revient à ce fait. De temps en temps, s'éleva du fond le plus intime de l'hellénisme, la protestation contre Homère, mais il resta toujours vainqueur. Toutes les grandes puissances spirituelles, à côté de leur action libératrice, en exercent une oppressante, opprimante. Mais à la vérité, cela fait une différence que ce soit Homère ou la Bible ou la science qui tyrannise les hommes. Ça fait une différence qu'on apprenne à lire dans Homère, dans la Bible, dans la science. Qu'on ouvre l'oreille avec Homère. Un certain nombre d'oppositions se déplacent et tombent à ce moment-là. Et la première opposition à se déplacer et à tomber, c'est l'opposition entre immanence et transcendance. Dans la naissance de la tragédie, on trouve cette qualification d'Homère que je trouve magnifique. Qualifier d'Homère les Grecs rêvants, et de Grecs rêvants, Homère lui-même. Cette resplendissante création de rêves, les Olympiens, les dieux, en la vivant eux-mêmes, justifient la vie humaine. C'est l'unique théodicée satisfaisante. La justification des dieux, c'est de justifier les hommes. Quand même le contraire de « Dieu a créé l'homme à son image ». Les Grecs voient les Olympiens, je continue à citer Nietzsche, comme leur propre reflet dans la sphère de la beauté. Ils se reconnaissent sans que la contemplation de ce monde parfait agisse comme un impératif ou comme un reproche. Je continue avec « Humain trop humain », ce qui n'est pas grec dans le christianisme. Les Grecs ne voyaient pas les dieux homériques au-dessus d'eux comme des maîtres, et eux-mêmes au-dessous des dieux comme des valets. Et paragraphe 125 de Humain trop humain, juste un peu plus loin, irréligiosité des artistes. Je cite, « Homère est parmi ces dieux si bien chez lui, et en sa qualité de poète, il se trouve avec eux si à l'aise qu'il faut absolument qu'il ait été foncièrement irreligieux. Avec la matière que lui proposait la superstition populaire, il se comportait d'une manière aussi libre que le sculpteur avec sa glaise. » Donc les oppositions qui tombent, qui sont remises en mouvement, c'est celle de la surface et de la profondeur, de l'apparence et de la réalité, de la fable mensonge pseudos et de la vérité, de la métaphore avec le propre, de la naïveté avec l'art achevé. Et je conclus par cette phrase de la préface à la deuxième édition du Gai Savoir. « Ah, ces Grecs, comme ils savaient vivre. Cela demande la résolution de rester bravement à la surface, de s'en tenir à la draperie, à l'épiderme, d'adorer l'apparence et de croire à la forme, au son, aux mots, à l'Olympe tout entier de l'apparence. Ces Grecs étaient superficiels par profondeur. » Cela vaut rapport aux politiques. Dans Humain trop humain, on voit comment, grâce à cette superficielle par profondeur, Homère subsume Platon. Nietzsche fait allusion aux lois et à la République, et au paragraphe 220 d'Humain trop humain, il nous explique ce qui est vraiment païen. C'est le titre du paragraphe. Peut-être n'y a-t-il rien de plus étrange pour celui qui regarde le monde grec, que de découvrir que les Grecs offraient de temps en temps, comme des fêtes à toutes leurs passions et à tous leurs mauvais penchants, qu'ils avaient même institué par voie d'État une sorte de réglementation pour célébrer ce qui était chez eux trop humain. C'est là ce qu'il y a de vraiment païen dans leur monde. Et il poursuit, d'où les Grecs tiennent-ils cette liberté, ce sens du réel, peut-être d'Homère et des poètes qui l'ont précédé. Car ce sont précisément les poètes, dont la nature n'est généralement pas des plus justes ni des plus sages, qui ont en propre ce goût des choses réelles et effectives sous toutes leurs formes, ce qui veut dire qu'ils sont du même avis que les fondateurs d'État en Grèce, dont ils ont été les maîtres et les précurseurs. Vous voyez le retournement, Platon expulse Homère, mais non, c'est parce qu'Homère est déjà dans Platon. Ce qu'il y a de plus réel dans la politique des philosophes, ils le doivent aux poètes, c'est-à-dire à Homère. Je conclus. Pour conclure, je voudrais revenir à une définition, ou tenter une définition plus globale du paganisme en lisant Homère, c'est-à-dire en revenant au récit. Et au récit, je ne vais pas lire Vernant lisant Homère, mais il a combien de fois et combien magnifiquement lu et interprété le passage que je vais vous lire, que je vais vous relire. C'est le passage où Ulysse rencontre Nausicaa au rivage des Phéaciens. Et j'avais envie que ce soit de l'Homère, enfin, à vrai dire c'est du Bérard, qu'on entend. J'ai combien de temps ? Encore 5 minutes. Bon, alors je lis un peu long puisque j'ai encore 5 minutes. Pour rentrer au logis, l'heure approchait déjà de plier le beau linge et d'atteler les mules. C'est alors qu'Athéna, la déesse aux yeux pères, voulut pour ses desseins qu'Ulysse réveillé vit la Vierge charmante et fut conduit par elle au bourg des Phéaciens. Elle lançait la balle à l'une de ses femmes, mais la balle, manquant la servante, tomba au trou d'une cascade et fit aussitôt de pousser les hauts cris, et le divin Ulysse, éveillé de s'asseoir, son esprit et son cœur ne savaient que résoudre. Hélas, en quel pays, auprès de quel mortel suis-je donc revenu? Qu'entends-je autour de moi des voix fraîches de filles? Mais allons, de mes yeux, il faut tâcher de voir. Et le divin Ulysse émergea des broussailles. Sa forte main cassa dans la dense verdure un rameau bien feuillu qu'il donnerait pour voile à sa virilité. Puis il sortit du bois, tel un lion des montagnes, qui compte sur sa force, s'en va, les yeux en feu, par la pluie et le vent, se jeter sur les bœufs et les moutons, où courent forcer les daims sauvages, c'est le ventre qui parle, tel en sa nudité, Ulysse s'avançait vers ses filles bouclées. Le besoin le poussait. Quand l'horreur de ce corps tout gâté par la mer leur apparut, ce fut une fuite éperdue jusqu'aux franges des grèves. Il ne resta que la fille d'Alcinoos. Athéna lui mettait dans le cœur cette audace et ne permettait pas à ses membres la peur. Debout, elle fit tête. Ulysse réfléchit. Irait-il supplier cette fille charmante et la prendre aux genoux? Ou sans plus avancer, ne devait-il user que de douces prières? Il pensa, tout compté, que mieux valait rester à l'écart et n'user que de douces prières. L'aller prendre aux genoux pouvait la courroucer. L'habile homme aussitôt trouva ces mots touchants. Bon, là j'arrête. C'est Kerdaleon Mutos. Trouva ce Mutos qui rapporte. Je suis à tes genoux, ô reine, que tu sois déesse ou mortelle. Déesse chez les dieux, maître des champs du ciel, tu dois être Artémis, la fille du grand Zeus, la taille, la beauté, l'allure, c'est elle. N'es-tu qu'une mortelle habitant notre monde? Trois fois heureux ton père et ton auguste mère, trois fois heureux tes frères. Comment leur cœur charmé tu dois verser la joie chaque fois qu'à la danse ils voient rentrer ce beau rejet de la famille. Et qu'au fond de l'âme est plus que tous les autres bienheureux le mortel dont les présents vainqueurs t'emmèneront chez lui. Mes yeux n'ont jamais vu ton pareil, homme ou femme. Ton aspect me confond. À Délos, autrefois, à l'autel d'Apollon, j'ai vu même beauté. Le rejet d'un palmier qui montait vers le ciel, le jeune fût d'un palmier. Car je fus en cette île aussi, quelle armée m'accompagnait sur cette route où tant d'angoisse m'attendait, tout comme en le voyant, je restais dans l'extase, car jamais fût pareil n'était monté du sol aujourd'hui dans l'extase aux femmes, je t'admire mais je tremble. J'ai peur de prendre tes genoux. J'arrête là. Je voudrais juste souligner quelques points. Le premier point dans ce passage, et ça je crois que Vernon n'en a pas parlé, le premier point qui étaye la force de la parole, c'est qu'au fond, on assiste à l'invention du performatif. J'ai trop peur de te prendre les genoux. Je te prends les genoux, gunomaïsé, car j'ai trop peur de te prendre les genoux. Je le fais en parole, et c'est plus fait que si je le faisais en fait. C'est fait de la seule manière possible. Je te prends les genoux, car j'ai trop peur de te prendre les genoux. C'est ça le kerdaleon mutos, hein, le discours qui rapporte, le discours qui fonctionne. Et dans toute la suite de cette séquence discursive qui rapporte, on peut entendre par exemple les commentaires de Lyotard dans Les impressions païennes, qui nous dit qu'un dieu païen, c'est un narrateur efficace. Eh bien, un homme païen, là, c'est presque un dieu. C'est mon deuxième point. Ce qui ne cesse de trembler dans ce texte, c'est ce que j'appellerais la perméabilité du monde. Hein? Ulysse est un lion des montagnes. Nausicaa est le jeune fût d'un palmier. Et tous deux, hommes et femmes, sont peut-être des dieux. Le divin Ulysse, lorsqu'il réapparaît après avoir pris son bain, Nausicaa dit « Oh, tu ressemblais pas, maintenant tu ressembles au dieu. » Et Ulysse dit en la voyant « Que tu sois femme ou déesse. » Donc, cette perméabilité du monde, ce cosmos qui fait harmonie, est le point le plus essentiel qui permet, qui étaye le kerdaleon mutos. Et je conclurai comme ça, de mutos, enfin, via mutos, via cosmos et perméabilité du monde, je propose qu'on définisse un païen comme celui pour qui celui qui arrive en face peut être un dieu. Et ça change beaucoup de choses. C'est une manière de penser et de sentir qui fait fond sur l'autre et sur le multiple, que, y compris politiquement, je nous souhaite. Merci.